Bonjour et bienvenue dans Rock'n'Roll Diaries, une émission qui vous est présentée par Luc. Salut Luc.
Salut Ludovic, salut à tous.
Alors une première émission de Rock'n'Roll Diaries qui est aujourd'hui, si je ne me trompe pas, consacrée à Herbert Léonard.
Alors non, ça sera pour la prochaine. On va plutôt commencer par les Clash qui sont un petit peu plus rock'n'roll qu'Herbert Léonard.
Les Clash, grand groupe de punk rock anglais.
C'est ça, un groupe qui a été formé dans les fin des années 70, 1975, exactement à une époque où l'Angleterre était un petit peu... dans la tourmente, avec une crise économique, une crise un peu sociale, un peu comme il peut se produire actuellement. Et c'est là-dedans que les Clash ont grandi. On commence à suivre les traces des Sex Pistols et à commencer à ouvrir la scène punk rock anglaise. On va peut-être écouter un premier morceau qui date du premier album des Clash, qui s'appelait tout simplement The Clash. Et qui a lancé un peu la carrière des punks anglais.
Un morceau qui s'intitule
London Burning.
London's burning. London's burning. Let's
Voilà, donc c'était London Burning. Est-ce que cette chanson a une histoire, Luc ?
Alors, il faut savoir que London Burning, c'est une des chansons qui est sur le premier album des Clash, qui s'appelle The Clash, plus facile à retenir, et qui est vraiment très, très vindicative. C'est vraiment un peu typique du style que les Clash vont avoir pendant toute leur histoire. C'est provocateur, c'est critique, c'est acide, et la musique est super efficace avec la guitare de Joe Strummer et de Mick Jones. C'est un peu plus tard, ils vont nuancer au fur et à mesure, mais là c'est vraiment le but de cette première chanson, c'est vraiment de ce premier album d'ailleurs, c'est vraiment faire bouger l'Angleterre un peu comme les Sex Pistols au même moment.
C'est le style punk, ouais, le style revendicatif, l'époque. Les Sex Pistols n'avaient pas été créés de manière commerciale quand même par une marque de fringues, il me semble.
Alors c'est un peu la différence entre les Sex Pistols et les Clash, c'est que les Sex Pistols, c'est effectivement à la base Malcolm McLaren et Vivian Westwood, les deux couturiers anglais qui avaient décidé de se lancer dans le rock and roll avec ce groupe qui a été effectivement une sorte de boys band entre guillemets. Qui leur a un peu échappé finalement. Et du coup, les Pistols n'ont jamais vraiment eu ce côté un peu politique, revendicatif, qu'ont toujours eu les Clash dans leur texte. Les Pistols, c'était vraiment plus, entre guillemets, du bruit, de l'énergie brute. Le Clash a beaucoup plus eu de portée politique et revendicative tout au long de son histoire, en fait.
Comment s'est créé le groupe avec Clash ?
Alors à la base des Clash, il y a deux hommes principalement qui sont Joe Strummer et Mick Jones qui tout au long de l'histoire du groupe vont être vraiment les deux cerveaux, ceux qui vont écrire les chansons, les interpréter, qui vont être là aussi pour faire la musique. C'est vraiment ces deux guitaristes, un guitariste et chanteur, donc Joe Strummer, et l'autre plutôt bassiste, à la guitare aussi au chant, Mick Jones. Et ils vont être rejoints par Paul Simonon, qui est le bassiste du groupe.
L'ami de Garfunkel.
C'est pas lui.
C'est pas le même.
Il faisait un peu plus de bruit celui-là. Ouais, et ils vont être rejoints ensuite par un batteur, le premier Terry Shimes. Bon, ils ont eu quelques soucis avec lui et ça se passait pas très bien. Ils l'ont rappelé in extremis pour enregistrer le premier album. Alors, par la suite, il va être remplacé par un garçon qui s'appelle Topper Eden, qui va être lui un peu le ciment du groupe, qui va être celui qui va faire que le groupe explose pas complètement, qui était un peu là pour arrondir les angles, pour faire en sorte que les choses se passent plutôt bien, mais qui lui avait des gros problèmes de drogue, et c'est un petit peu son départ du groupe dans les années au début des années 80, de l'année 82, qui va précipiter la fin du groupe, même si officiellement alors le groupe a commencé sa carrière en 76 pour la finir en 85, mais déjà en 82 quand le groupe a effectué sa dernière tournée aux États-Unis, qui était la première partie de la tournée d'adieu des Who. C'était un peu eux aussi leur tournée d'adieu parce que ce qu'ils feront derrière, c'est pas vraiment le Clash. Il y a un dernier album qui sortira en 85 que tous les membres du groupe ont renié complètement. D'ailleurs, personne n'en parle. Donc pendant cette période de 76 à 85, les Clash vont sortir en tout et pour tout 6 albums. Donc le premier en 77 qui s'appelle The Clash. Le deuxième en 78, Give Em Enough Rope. Le troisième, London Calling, qui est peut-être le plus achevé de tous, qui est peut-être celui qui représente le mieux les Clash. Le quatrième, Sandinist en 80, qui apporte un soutien très très manifeste au mouvement de guérilla en Amérique du Sud. Le 14 mai 82 sortira Combat Rock, dont sont extraits les titres mythiques que sont Should I Stay or Should I Go, ou Rock the Casbah.
Qu'on entend encore.
Et donc le dernier, 85, Cut the Crap.
Qui ne vaut rien.
D'ailleurs, je crois que Joe Strummer n'était même pas là, plus vraiment là quand l'album est sorti. Donc voilà. On va peut-être écouter un deuxième morceau.
Absolument.
Un morceau qui va un peu éclairer sur la musique des Clash, parce que l'une des différences aussi avec les Pistols dont on parlait tout à l'heure, c'est que le Clash a touché à tous les styles musicaux. Et notamment le reggae, ce qui n'est pas nécessairement, qui n'était pas très courant à l'époque, ce mélange des genres. Ils ont fait du ska, du dub, du reggae, du rock, du punk, évidemment. Donc ce morceau qu'on trouve sur l'album The Clash aussi, qui est une reprise de Junior Marvin, qui est une reprise d'un grand tube de reggae et qui s'appelle Police and Thieves. Oh, good.
Voilà donc pour cette chanson Police and Sis, qui a été reprise d'ailleurs dans plusieurs films, dont Wes Anderson, La famille Tenenbaum. Dans quel autre film, Luc?
Je crois qu'il était aussi dans le film This is England.
This is England, qui est sorti il y a 2 ans, l'an dernier.
Ouais, il y a 2 ans, je crois.
Quelque chose comme ça. Donc ce premier album, qui est éponyme, qui s'appelle The Clash, a été enregistré dans des conditions particulières.
Alors, c'est vrai que c'est vraiment typique un peu du mouvement punk de l'époque. C'est le journaliste Philippe Manœuvre qui explique un peu comment ça s'est passé, cet enregistrement, qui s'est produit en février 77. Alors, les Clash ont débarqué dans le studio... Et il y avait un ingénieur du son qui avait les cheveux longs, il le traitait de hippie. Il voulait pas leur serrer la main. Enfin, c'était un peu compliqué. Il y avait Mick Jones qui était à fond dans le speed complet. Il était drogué à peu près les 3/4 du temps.
Comme souvent à l'époque.
Les employés du studio, ils confondaient les membres du groupe avec des peintres en bâtiment. Ce qui facilitait pas les choses pour entrer dans un studio finalement. Joe Strummer, lui, on lui a proposé une guitare toute neuve, toute belle et tout, mais non, lui, il avait sa vieille Telecaster toute pourrie, réparée avec du scotch, à moitié cassée. Voilà, donc c'est comme ça que ça s'est enregistré, avec des clashs tout le temps, avec les ingénieurs du son. Parce que le clash était comme ça, il faisait un peu ce qu'il voulait. Il y avait des interférences, il s'en foutait, ça saturait. Ils s'en foutaient, ils voulaient faire leur truc. Au final, ça donne un album qui fait 34 minutes, qui est quand même un petit peu court. Mais bon, voilà, c'est comme ça qu'est partie l'histoire du Clash, en fait.
Les concerts devaient être sympas, ils devaient reprendre les morceaux à l'envers après les sets terminés.
Ils cassaient pas trop le matos finalement, et il y a une petite anecdote, on verra après sur l'album London Calling, qui est le troisième album du Clash, où la pochette très connue reprend, c'est Paul Simonon qui explose sa basse sur scène. Et en fait, il faut savoir que c'est resté très connu, ouais, le symbole du punk, des mecs qui cassent tout et tout. Et en fait, c'est la seule fois qu'il a cassé une basse sur scène et que les Clash ont cassé un instrument sur scène, en fait.
Oui, les punks sont douillés quand même.
Ouais, ils font attention au matos.
Ça coûte cher. Justement, on va écouter la première chanson de cet album London Calling. Et c'est justement cette chanson qu'on écoute.
Boys and girls, London calling. Now don't look to us. Phony Beatlemania has bitten the dust. London calling. See, we ain't got no swing except for the rain and the crunch of thing. The ice is coming, the sun's zooming in. Meltdown expected, the wheat is within. Engines stop running, but I have no fear, 'cause London is drowning. Imitation zone. Forget it, brother, you can go it alone. London calling to the zombies of death. Quit holding out and draw another breath. London calling, and I don't wanna shout, but while we were talking, I saw you nodding out. London calling, see we ain't got no hide, except for that one with the yellowy eyes. The ice is just coming, the sun's zooming in. Engines stop running, the wheat is going through a nuclear error. But I have no fear, 'cause London is drowning.
and you know what they said. Some of it was true. London calling at the top of the dial. And after all this, won't you give me a smile? London calling. I never felt so much alike.
Voilà donc la chanson London Calling tirée du troisième album. Alors le premier The Clash, on en a parlé tout à l'heure, là on est passé au troisième. Tout simplement, eh bien, parce que le second, on ne l'a pas.
Oui, alors si quelqu'un veut nous l'offrir, on est preneur.
Voilà, nous aussi on est un peu punk, on n'a pas tous les albums. Cet album, alors on va en parler, ce troisième album. De toute façon, le second n'était pas terrible, je crois.
Il était moins bien.
Il était moins bien, donc on le passe, on s'en fiche. Ce second album, London Calling, Luc.
C'est London Calling, c'est vraiment le un peu celui qui va révéler... Le Clash au plus grand nombre finalement. Alors faut savoir que c'est un double album normalement, et comme tous les albums des Clash, double ou simple, ils le vendent toujours au prix à l'époque, au prix d'un simple album, ce qui faisait 5 livres à peu près à l'époque. Rêveur sur le prix de la musique à l'époque. Au départ, il est quand même les fans l'accueillent avec un peu de suspicion parce qu'ils ont l'impression qu'il est plus progressif que les autres. Alors qu'en fait, sur cet album, les Clash ouvrent vraiment leur univers musical à beaucoup 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 de tendances. Donc il y a du rock bien sûr, mais aussi du rockabilly, du reggae jamaïcain, du dub, du ska, qui était des choses assez populaires en Angleterre à l'époque.
C'est étonnant ça quand même, parce que enfin, moi je vois les punks comme des personnes extrémistes quand même, et s'ouvrir, faire du reggae, c'est étonnant.
Ça a été très étonnant à cette époque, où par exemple on avait effectivement les Sex Pistols qui étaient vraiment dans le, par exemple, ou des Américains comme Blondie qui était vraiment dans le rock, dans le pur et dur, alors que eux ont vraiment essayé de s'ouvrir et ils l'ont toujours fait finalement plus ou moins. Il y a même un morceau qui est plutôt jazzy aussi à l'intérieur. Et je pense que c'est peut-être aussi une des forces de ce groupe qui a toujours su s'ouvrir à, que ce soit musicalement mais aussi spirituellement. Notamment en s'engageant vraiment beaucoup politiquement. Là, par exemple, cette chanson, la première de l'album, donc qui est London Calling, qui vraiment reflète un peu l'inquiétude, le scepticisme de Strummer à l'époque sur la situation mondiale. Il parle de nuclear error, c'est qu'il y avait eu quelques mois auparavant un accident nucléaire aux États-Unis, la fameuse accident de la centrale Three Miles, qui est donc une référence de cette chanson. Il y a aussi
Spanish Bomb
qui est un rapport à la guerre civile espagnole. Voilà, il y a aussi des paroles notamment sur London Calling qui se moquent déjà aussi de la starification des groupes punk, parce que déjà là on est en 79. On n'est pas loin aussi de la fin du mouvement punk tel qu'il était un peu à ses débuts, c'est-à-dire ce mouvement un peu brutal, un peu spontané qui était né à la fin des années 70. Voilà, c'est un petit peu tous ces thèmes qui sont abordés dans cet album et même en général, généralement dans la carrière du Clash.
Merci, cette émission est terminée. Non, pas du tout.
Okay. Voilà, donc... Voulez-vous parler un peu des thèmes justement abordés dans la carrière du Clash, un peu à travers tous leurs albums? Strummer a dit: pour moi, le punk rock, c'était un mouvement social. Nous essayons de faire politiquement les choses dont nous pensions qu'elles étaient importantes pour notre génération, et avec un peu de chance, qu'elles inspireraient une autre génération à aller encore plus loin. Voilà, ça c'est ce que disait Joe Strummer un peu du mouvement punk et de son groupe.
Ce qui a été le cas, hein. On voit maintenant Christophe Maé, des artistes engagés comme ça.
C'est vrai, Christophe Maé, Chantal Goya à son époque a été
Chantal Goya, avec le lapin.
Avec le lapin, très punk. Voilà, un peu comme Nico qui travaille juste à côté, les thèmes des punks, c'était l'opposition à l'impérialisme, la dénonciation de l'injustice raciale, la critique du capitalisme. Voilà, c'est vraiment ces thèmes-là que Strummer et les Clash ont voulu développer. D'abord, avant toute chose, il y avait la critique de ce qu'on appelle l'établishment, qui est un peu cette classe sociale anglaise, notamment. Il y avait aussi la critique du système politique. Il faut dire que dans les années, fin des années 70, en Angleterre, le Parti travailliste, qui est un petit peu l'aile gauche de la politique anglaise, avait vraiment abandonné l'espace social, l'espace politique, laissant la voie au thatchérisme et tout ce que ça a pu entraîner dans les années suivantes. Et c'est ça aussi que les Clash ont voulu dénoncer. On les appelait souvent les loubards de l'homme intelligent. C'était pour montrer aussi que c'était un groupe qui était pas là que pour faire du bruit, que pour faire de la musique. Ils étaient là aussi pour apporter une caution intellectuelle à leurs chansons, à leurs albums. C'est une des choses qui a beaucoup marqué la période des Clash. On va peut-être écouter un autre morceau de cet album London Calling. C'est une chanson qui s'appelle Guns of Brixton. Alors, Guns of Brixton, c'est la première chanson qui a été écrite par le bassiste Paul Simonon et qui est, comme on disait tout à l'heure, qui est un exemple. Là, pour le coup, c'est plutôt du dub qui a influencé ce morceau. Très influencé par la Brixton, la grosse communauté jamaïcaine de Londres. Voilà, il décrit notamment les violences policières qu'il y avait eu à une certaine période dans ce quartier.
Allez, c'est parti, The Guns of Brixton. Voilà donc pour cette chanson. Alors on parlait de l'engagement des Clash, les Clash qui se sont engagés politiquement également.
Oui, comme beaucoup de groupes d'ailleurs, mais eux particulièrement, ils ont notamment participé à la lutte anti-nazie, participé à un festival qui s'appelle Rock Against Racism, voilà, où notamment Joe Strummer a affiché un t-shirt aux couleurs des brigades fraction armée rouge allemande, donc qui était à l'époque un groupe un peu terroriste d'extrême gauche. Mais ils ont aussi apporté le soutien, ça c'était dans leur quatrième album qui s'appelle Sandiniste, leur soutien à la guérilla marxiste au Nicaragua. par exemple. Ça, c'était un de leurs chevals de bataille. C'était protester aussi, apporter leur soutien au mouvement de protestation. Comme beaucoup de groupes punk, évidemment, ils ont protesté contre la monarchie, contre l'aristocratie au Royaume-Uni. Mais leur credo, c'était vraiment de s'ouvrir à la protestation du plus grand nombre. Voilà, les antimilitaristes aussi ont été soutenus par les Clash. Et au fur et à mesure, ils ont vraiment saisi l'air du temps. Sur la fin de la carrière, ils ont parlé de la guerre d'Afghanistan, des crises iraniennes, par exemple. On se souvient que Rock the Casbah, qui est un de leurs derniers titres les plus connus, notamment, était une protestation contre la décision du gouvernement iranien d'interdire la musique, par exemple, puisque c'était pas selon la loi en vigueur à l'époque dans ce pays.
Ce qui est toujours en vigueur d'ailleurs. Hein,
c'était toujours en vigueur effectivement depuis pas très longtemps. Il y a beaucoup de domaines. Hein, Career Opportunities qui était sur l'album The Clash aussi, qui exprimait le rejet de l'autorité militaire, le refus d'aller se battre lors du service militaire. Voilà, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que les Clash et les groupes punk ont vraiment pris la place de la classe politique à certains moments, notamment à une époque où l'aile gauche de la classe politique anglaise avait du mal à se situer et à laisser place, ce qu'on disait tout à l'heure, hein, à ces 15 années de thatchérisme pur et dur qui ont entraîné de nombreuses grèves et de nombreuses contestations. Au sein de l'Angleterre. On va peut-être écouter un morceau de cet album sandiniste, un morceau qui s'appelle The Magnificent Seven. Voilà. Et alors là, encore une fois, c'est encore un autre côté des Clash. Parce que là, pour le coup, le morceau est inspiré un peu du rap old school de groupes comme Grandmaster Flash ou The Sugar Hill Gang. Voilà. Alors c'est vraiment le début du rap. Mais une fois encore, les Clash avaient su saisir un peu ces différentes sonorités pour les utiliser eux aussi dans leur musique.
Du punk rap.
Du punk rap, c'est un peu ça.
You know. have to work and sweat some more. The sun will sink and we'll get up at all. It's no good for man to work in cages. Hit the town, he drinks his wages. Your friend, your sweat, but didn't you notice you are getting? Your friend, your sweat, but didn't you notice not getting anywhere? Don't you ever stop long enough to start? Take your car out of that gear. Don't you ever stop long enough to start? Get your car out of that gear. Call the mob, fire an alias. Came to the checkout at the 7-Eleven. Mobs was good, but he had sense. Engels, Lenin, a necessary defense. What do we got? Yeah. What do we got? Yeah. What do we got? Magnificent. What do we got? King and Mahatma Gandhi went to the park to check on the game, but they was murdered by the other team. Went on to win 50-0. You can be true, you can be false, you'll be given the same reward. Socrates and Milhouse Nixon both went the same way through the kitchen. Plato the Greek or in thin thin, who's more famous in the billion million? Who's black? Vacuum cleaner sucks up budgie.
Alors chaque époque a mis son lot de groupes en comparaison. On a eu les Beatles, les Stones, bien sûr, Oasis et Blur dernièrement. Gérard Lenormand, Frédéric François. Et là, donc, on en a parlé, il y avait les Sex Pistols et les Clash.
C'est vrai. Alors les deux groupes sont issus du même mouvement. Et ils ont d'ailleurs une histoire commune. Pour la petite histoire, pour leur premier concert, les Clash étaient en ouverture, en première partie des Sex Pistols. C'était ça au départ, hein. c'était vraiment les Pistols qui étaient la tête d'affiche du mouvement punk. Mais les deux groupes en fait n'avaient pas vraiment la même philosophie, pas les mêmes buts. Mick Jones avait dit qu'il y avait de la camaraderie jusqu'à un certain degré, mais évidemment un peu d'esprit de compétition aussi. Vous êtes dans une équipe différente. S'il y avait bien une chose au départ du punk, qu'un groupe de gens qui pensait seulement à la destruction et un autre qui pensait à créer. C'était Sex Pistols et nous. Nous avions deux approches différentes, des finalités opposées. Voilà, c'est ce que disait un peu Mick Jones. Et finalement, ça résume bien
la différence entre les deux.
Les Clash délivraient un véritable message et eux, en fait, les Pistols, ils avaient pas un vrai sens. Ils se concentraient principalement sur la haine, la dérision. Et le Clash, eux, de son côté, avait plutôt tendance à s'occuper de problèmes du quotidien, comme par exemple du chômage, qui était finalement un peu la base du mouvement punk. Donc c'est un peu la grosse différence entre les deux. D'ailleurs, il y a un groupe qui a quand même tenu beaucoup plus longtemps que l'autre, même si il y a qu'un seul véritable album en studio des Pistols et 5. Du Clash. On va peut-être en faire une autre.
Ah oui, avec plaisir.
On peut se faire un petit rock de Casbah.
Un petit rock de Casbah, la chanson préférée des Clash de Nico.
Voilà, c'est ça. C'est un peu ce que Nico nous a ramené de ses multiples voyages. Il est revenu avec sa crête iroquoise la dernière fois.
Ouais.
Et on a été impressionnés. Je ne sais pas comment il a fait pour entrer dans le studio, mais
je ne sais pas.
Donc voilà, alors celle-là, c'est la chanson préférée de l'Ayatollah Khomeini.
Et de Nico.
Et de Nico. Donc comme on disait tout à l'heure, hein, c'est Rock de Casbah qui évoque un peu l'interdiction de la musique rock en Iran. Voilà, qui raconte l'histoire fictive de la population qui s'oppose à l'interdiction de cette musique en ébranlant la Casbah, donc Rock de Casbah. Et qui conduit l'Ayatollah à ordonner le bombardement des fêtards et des avions de chasse. Tout un programme.
The shaky from his Cadillac. He went cruising down the hill. The prison was standing on the radiator grill. Show me don't like it. Rock the Casbah, rock the Casbah. Show me don't like it. Rock the Casbah.
Voilà, l'émission touche presque à sa fin. Pour la finir, on va justement parler. On va parler des tensions au sein du groupe qui vont pousser à la séparation des membres des Clash.
Il faut savoir que ça a toujours été un peu compliqué, comme dans beaucoup de groupes de rock, les relations entre les divers membres du Clash. Dans les années, début des années 80, donc 80, 82, au moment de la sortie de cet album qu'on vient d'écouter, Combat Rock, la séparation est devenue quasiment inéluctable. Topper Redon, on l'a dit, le batteur, a de plus en plus de problèmes de drogue, notamment par rapport à l'héroïne. C'est un peu ce qu'on disait tout à l'heure, lui qui fait le lien un peu entre les différents membres du groupe. Alors que Combat Rock, qui devient la meilleure vente mondiale du groupe, notamment, lui permet de passer en force dans les hit-parades américains. l'unité du groupe commence vraiment à s'effriter. Topper Hedon, on lui demande de quitter le groupe après l'enregistrement de cet album Comba Rock. On récupère Terry Shimes, le premier batteur du groupe, qui va faire la tournée américaine. Cette tournée qui est en fait la tournée d'adieu des Who. Et pour ça, le Clash fait la première partie dans tous les grands stades américains. Donc il y a le JFK Stadium de Philadelphie, le Silver Dome de Détroit, le Shea Stadium de New York, dont on va entendre un petit extrait tout à l'heure. Voilà, et pareil, Joe Strummer, lui, il se cherche encore. Il aborde la crête iroquoise qui symbolisait le punk des premières années. Et qui a relancé un peu le mouvement auprès de la jeune génération. Bon, faut savoir que les membres du groupe sont assez jeunes, hein, puisque Strummer a 30 ans à l'époque, Simon Onn et Jones ont 26 et 27 ans. Petit à petit, les choses deviennent difficiles. Le groupe ne parvient plus à travailler ensemble. Terry Shimes, le batteur, donc claque la porte du groupe après cette tournée américaine. Le groupe finalement va exploser complètement en 83, avant de tenter un dernier album que tout le monde reniera finalement en 85. C'est la fin de ce groupe qui aura vécu une aventure extraordinaire. Les membres du groupe, eux, vont avoir des destinations un peu différentes. Topper Hedon, lui, refera quasiment plus jamais de la musique. Il va juste réussir à sortir de ses problèmes de drogue. Joe Strummer, lui, va continuer avec plusieurs groupes. Il y avait notamment un groupe qui s'appelle les Mosquitos. Il a fait quelques petits albums aussi. En 2002, il est décédé alors que le groupe, en fait, envisageait sa reformation. Il devait remonter sur scène. Il avait prévu de remonter sur scène pour un concert et envisager peut-être justement de tenter de se retrouver. Paul Simonon, lui, il a collaboré sur le tard à plusieurs projets, notamment ceux de Damon Albarn, l'ancien leader de Blur, et donc il a travaillé sur The Good, The Bad and The Queen, et sur un groupe qui s'appelait aussi Big Audio Dynamite. Mick Jones, lui, il est devenu producteur. Il a aussi travaillé avec Damon Albarn un peu plus tard. Mick Jones, donc, est devenu producteur, notamment des groupes des Baby Chambles et des Libertines, qui sont les deux groupes de Pete Doherty.
Ouais.
Voilà. Comme quoi, les chiens font pas des chats. On va peut-être en faire un petit dernier.
Oui, avant de clôturer l'émission, on va écouter la chanson la plus connue des Clash, qui est donc en live sur cette tournée dont tu nous parlais, Luc, à The Shea Stadium.
Shea Stadium à New York, donc c'est Should I Stay or Should I Go?
Should I go? If you say that you are mine, I'll be here till the day I die. Come on and let me know. Should I stay or should I go? It's always tease, tease, tease. You're happy when I'm on my knees. One day is fine, the next is black. So if you want me off your back, come on and let me know. Should I stay or should I go? Should I stay or should I go now? Should I stay or should I go now? If I go there will be trouble. Decisions bugging me.
Seems you better rest up.
You don't want me, set me free.
See you killing everything.
Exactly who am I supposed to be?
Take the sound.
Don't you remember where you met
me?
Come on and let me know.
Voilà, alors pour terminer cette émission, Luc, la discographie des Clash, quels sont les albums achetés ou les chansons à retrouver ?
Alors, il faut savoir que tous les albums des Clash ont été remasterisés, sont sortis en CD. Les 5 albums du Clash, notamment Combat Rock, London Calling, Sandinista, donc les 3 qu'on a entendu ça, Give Em Enough Rope, même si on l'a pas trouvé, il est sorti aussi. Il y a ce live à Shea Stadium qui est le dernier sorti chez les Clash, le dernier album. Cet enregistrement là date de 82. Le live est sorti il y a 3 ans, je crois. Celui-là, il s'appelle Live at the Shea Stadium, The Clash. Il y a une très très bonne compile aussi live qui s'appelle The Clash From Here to Eternity, qui est sorti chez Columbia et qui est un très très bon album. Il y a des bouquins qui sont sortis, il y en a quelques-uns, notamment un gros bouquin qui est très très bien documenté sur le Clash, qui est sorti aux éditions du Diable Vauvert. Et puis il faut savoir aussi que le Clash a participé à quelques expériences cinématographiques, alors pas avec ses musiques, même si Ludovic en a parlé tout à l'heure, quelques films ont utilisé la bande-son du Clash. Il y a un film qui s'appelle Rude Boy, qui raconte un peu l'histoire d'un jeune anglais qui devient roadie des Clash. Et c'est un peu cette histoire-là, illustrée par des concerts de Strummer et compagnie. Voilà, c'est ce qu'on pouvait dire sur ce groupe anglais mythique. Alors, on aurait bien demandé à Nico, qui est un grand spécialiste aussi, hein, qui a l'habitude de chanter le Clash sous sa douche, de venir nous interpréter. Voilà, en espagnol, de venir nous interpréter quelques morceaux, mais il fait le timide, là.
Oui, il n'ose pas. Il est dans les plantes aromatiques de Sud Lozère. Peut-être pour la prochaine, et justement, on se donne rendez-vous dans 2 semaines, même jour, même heure. Bien sûr, on n'est pas en direct, parce qu'à cette heure-ci, on fait l'apéro.
Oui, forcément.
On ne peut pas. Par contre, on enregistre en différé dans les studios. Si vous trouvez le moment où on enregistre et que vous venez avec un pack de bière, nous vous offrons un CD gravé d'un concert de Carlos, un concert underground à Seattle, avec le Tirli Pimpon.
Exactement.
Et tous les morceaux. Sur le Chihuahua. Et la semaine prochaine, dans 2 semaines, pardon, même heure, nous allons retrouver ce groupe pour en parler. Et on vous donne bien sûr rendez-vous. Ciao.
Rock and roll. Potential height.